Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Bonjour, monsieur Phelps. Il est inutile de vous rappeler que ce qui vous sera confié ici doit rester strictement confidentiel.
Fabio Quartararo qui est en tête à la réaccélération. Peut-être la deuxième place, la victoire pour Fabio Quartararo.
Un Quartararo dixième a du mal à revenir.
Vous êtes inquiet.
Et Fabio qui ne sera pas sur le podium pour célébrer sa couronne mondiale. Mais qu'importe ce podium, le titre mondial pour le pilote italien.
Mettez votre masque à oxygène. Je vais voir ce qui se passe.
Première indication de cette course sprint, Bagnaia pour l'instant à 12 points en poche, Quartararo 0.
Dans le cas où vous échoueriez, nos services nieraient toute collaboration entre vous et nous, enfin, c'est-à-dire tout contact. Bref, vous vous démerderez.
Eh bien, ce n'est pas mission difficile, monsieur Pan. C'est mission impossible.
Contre tous, c'est un peu le slogan porté par Fabio Quartararo pour cette nouvelle saison de MotoGP qui s'ouvre aujourd'hui au Portugal. Le pilote français veut reconquérir sa couronne mondiale après sa deuxième place l'année dernière, mais il se retrouve totalement isolé lors des derniers essais cette semaine. Fabio Quartararo était le seul pilote Yamaha du top 8 entouré par cette moto du constructeur italien Ducati. Et aujourd'hui, il s'élancera seulement en mauvaise position pour le premier Grand Prix de la saison. Lui qui a terminé dixième du sprint, la course sprint hier. La musique qui fout les jetons. Et cette question, est-ce mission impossible pour Fabio Quartararo? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Oui.
Cyril Marais?
Oui.
Pascal Duprat?
Non.
Renaud Longuèvre?
Non.
Deux noms, deux oui. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport qui a rencontré plusieurs fois Fabio Quartararo, Valentin Jamin. Salut Valentin. Alors le pilote français redoute-t-il cette nouvelle saison?
En tout cas, le Français n'a pas revu ses ambitions à la baisse ces dernières semaines. Le champion du monde 2021 parlait bien de titre.
J'ai pas peur de le dire parce que c'est un objectif clair. Et si je dis que je vais terminer deuxième ou troisième, c'est que je suis pas là pour gagner. Je m'entraîne pour une chose, c'est de gagner. On sait pas si on va le faire. Mais en tout cas, faut partir avec cette mentalité de dire voilà, je suis ici pour gagner.
Après la dernière course l'an passé, Quartararo n'a presque pas coupé.
En fait, j'ai pas fait de vacances. J'ai pris un jour de repos et je me suis remis à l'entraînement direct. J'ai pas arrêté pendant tout l'hiver. Donc physiquement, j'ai passé vraiment un cap sur le cardio. J'ai pu vraiment m'entraîner en moto aux États-Unis pendant 3 semaines. J'ai fait énormément de vélo de montagne. J'ai fait énormément de motocross.
Lors des essais d'avant-saison, le Niçois s'est montré satisfait de la puissance du moteur de sa Yamaha. Principal défaut en 2022 face au Ducati.
Le plus important, c'était de voir la vitesse de pointe et bon là, donc c'est important. Yamaha a fait un très gros travail avec les nouveaux ingénieurs. Le moteur, quand c'est scellé dès le début d'année, c'est scellé jusqu'à la fin. Et le reste, c'est aussi important, mais on a un petit peu plus de temps pour le gérer.
Mais il reste bien quelques interrogations après les tests d'avant-saison sur l'aérodynamique par exemple, d'autant que les 8 motos Ducati sur la grille de départ sont toujours les plus performantes. Eric Mahé, manager de Quartararo, confirme ce constat, mais ne pense pas que cela puisse toucher le moral du pilote.
On espérait des gains divers et variés avec des petites pièces qui finalement ne se sont pas avérées bonnes. Par manque de temps, on n'a pas pu valider précisément les choses et donc on est revenu à des choses plus conventionnelles. Et lui, l'idée qu'il s'en fait, il n'y en a pas. Lui, il donne son maximum en permanence. Ok, c'est un aspect qui peut être développé dans les médias, etc. Mais pour le sportif qu'il est, je pense que ça ne change rien. Maintenant, si on gagne avec une machine dont tout le monde sait qu'elle a certaines lacunes, le mérite du pilote n'en est que plus grand.
Ce serait d'autant plus fort que Pecco Bagnaia, champion en titre avec Ducati, domine toujours. À ses côtés, un autre pilote performant, Bastianini, est arrivé. Quartararo, largement supérieur lui à son coéquipier Morbidelli, va donc devoir s'accrocher un petit peu seul, même s'il reste redouté par la concurrence.
Quand on termine après une année champion du monde, celle d'après on fait deuxième, on est régulièrement dans l'eau du classement et je pense que le regard des autres il change.
Le Français est en tout cas en terrain favorable puisqu'il a gagné les 2 dernières courses à Portimao.
Et il s'élancera, merci beaucoup Valentin Jamin. Dixième position pour ce premier Grand Prix de la saison. C'est Marc Marquez, le revenant, qui a signé la pole. Est-ce mission impossible pour Fabio Quartararo? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai deux noms, deux oui. On va commencer par un nom. Pourquoi non, Pascal Duprat?
Bah déjà, dans les propos de Quartararo, on sent que c'est un gagnant. On l'a vu, c'est pour ça qu'il nous passionne. Il s'est entraîné comme un fou cet hiver. Ses ingénieurs tente de combler les lacunes de sa Yamaha. Apparemment, d'après ce qu'il dit, je lis beaucoup ce qu'il dit, Quartararo, ça m'importe, ça m'intéresse. Et il dit qu'il va peut-être falloir attendre quelques grands prix pour voir sa moto réellement compétitive. On s'est aperçu hier lors du sprint qu'à un moment donné, il était dernier parce qu'il a eu un problème au départ. Puis en plus, ensuite, il a été accroché. Il est malgré tout revenu. Alors, il n'est pas revenu au niveau des meilleurs, mais il était pas loin. Il était presque compétitif en temps autour que les premiers. Donc moi, non, j'y crois vraiment. J'y crois parce que ce gars, il a pas envie d'abandonner. Et puis, ce serait inopportun de considérer qu'il faille baisser la garde et les armes alors que le premier Grand Prix n'est pas couru. Attendons un peu avant de tirer des conclusions hâtives.
N'insultons pas l'avenir. Non, Cyril Marais.
Pascal, tu connais beaucoup d'athlètes qui vont dire non, ben je vais aller y aller pour faire une quatrième ou une cinquième place. Non, bien sûr, dans la démarche.
Je réponds,
dans le discours.
La parenthèse. Je connais beaucoup d'athlètes qui pleureraient avant d'être battus, qui parleraient des lacunes de la moto pour se couvrir. Lui, non.
Oui, non, mais ça je te rejoins, mais enfin quand tu vas sur une compétition, c'est quand même pour t'engager à fond et essayer de donner le meilleur de toi-même. Tu peux viser que, voilà, surtout quand t'as déjà été champion du monde, tu peux viser que le haut du classement. Après aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a 8 Ducati quand même qui sont sur le circuit. Lui, il y a que 2 Yamaha, il a qu'un seul coéquipier. Forcément, le jour où il va falloir aider les autres, ça va être très compliqué pour lui.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs l'année dernière.
Course d'équipe, oui, bien enfin.
Bien sûr. On a quand même aussi les Aprilia qui sont très compétitives aussi cette année. Marquez qui sur Honda qui a montré qu'il était encore bien présent.
Pole position tout à l'heure et troisième de la course au sprint.
Ouais. Et voilà, plus les sprints qui se sont rajoutés. Et par contre, autant tu dis que son discours il est vraiment conquérant et ça je l'entends, autant je trouve qu'il se plaint énormément depuis le départ de l'annonce des courses au sprint. Et encore hier, il a dit que ça allait être un carnage chez la jungle. Il est très négatif sur ses courses sprint, pardon. Et pour moi, voilà, ça prouve quand même, ça montre une petite faiblesse de son côté.
Oui, on en parlait d'ailleurs hier de ces courses sprint où il s'en plaignait au micro RMC. Et hier, il a remis une deuxième couche. Tu as raison. Je n'aime pas du tout ça. C'est beaucoup trop dangereux. Si on n'est pas agressif, on perd des places. C'est la jungle. Nous ne sommes pas dans des voitures et c'est beaucoup plus sûr et où les contacts sont moins problématiques. Il n'aime pas du tout et il s'est plaint. Tu as raison. Une nouvelle fois. Renaud Longuèvre, pourquoi toi tu y crois ?
Moi j'y crois parce que bon déjà faut pas conclure sur ce qui s'est passé sur le sprint hier parce que déjà c'est un nouveau format donc ça va être très intéressant aujourd'hui de voir justement la différence entre la course sprint et puis le Grand Prix réel. Moi je pense que c'est comme en athlétisme entre le sprint et le demi-fond, c'est pas du tout le même sport. Donc faut pas qu'on juge trop vite par rapport à ce qui s'est passé hier et je crois que c'est une épreuve d'endurance au long cours, c'est un marathon, un championnat du monde, on a vu que sur les essais il est pas devant, mais je suis comme Pascal, moi je fais confiance au champion, je fais confiance aussi à sa capacité à gérer dans la durée, à gérer dans la longueur et
il va être tout seul Renaud.
Oui, il va être tout seul mais il est préparé à un début de saison difficile, il va être tout seul mais je veux dire
il y a plus 21 courses, il y en a 42.
Non mais
où tu marques des points.
Cyril, le truc c'est que il va être tout seul. Mais si la machine, si les ingénieurs bossent bien, si la machine est performante, il a pas besoin de quelqu'un. Il a pas besoin.
C'est ça le problème. C'est un sport mécanique. C'est pas la mentalité du champion qui est à mettre en cause. Évidemment, on le sait bien. C'est comme le disait Pascal, c'est un gagnant, c'est un gagneur. C'est un formidable pilote. Mais on est dans un sport mécanique et la Yamaha n'est pas au niveau des Ducati. Il faut se rendre à l'évidence.
Tu peux pas conclure ça juste après des essais mais sur le sprint. C'est là où vous êtes dans l'erreur.
Bien
c'est
sûr
là
que
vous
si.
Êtes dans l'erreur.
Mais
c'est récurrent.
Regarde, à la première course,
Christophe,
tu savais très bien que les Red Bull étaient largement au-dessus des autres et ça s'est confirmé, Renaud.
Christophe, tous les dimanches, tu fais la même erreur. Tous les dimanches, tu tombes dans le panneau. Mais c'est systématique avec toi.
Non, mais apprenez un peu ce qu'est un sport mécanique. Voilà. Évidemment, si tu jouais sur les compétences du mec, il n'y aurait aucun souci. Je pense que Fabio est du même niveau qu'un Marquez en termes de pilotage. C'est un mec, il a un toucher incroyable de piste avec sa moto. Mais c'est un sport mécanique et la Yamaha, en termes de performance, même si elle a progressé, n'est pas au niveau des Ducati.
Au début de la saison,
tu parles à l'instant T, Christophe, c'est ton problème. Tu te projettes pas, garçon.
Mais regarde, on va faire un after GG. Je vais encore te rabaisser ton caquet ce soir, toi, là.
Mais là, petit Renault. Non, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est l'interview de Marquez. Là, aujourd'hui, il a dit pour avoir la pole et pour. Il s'est employé physiquement. Dans les freinages, il a été jusqu'au bout. Physiquement, il s'est employé pour avoir fait ce résultat-là sur sa première course au Portugal. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, est-ce que tu vas être capable de t'employer comme ça physiquement? Les mecs, ils vont sur 42 courses. C'est pas possible. Ouais. T'as beau avoir le mental qu'il faut. T'as beau être préparé. T'es préparé sur l'intersaison à fond. Aujourd'hui, les mecs, ils vont moins forcer sur Ducati parce que c'est beaucoup plus puissant. Parce que en ligne droite, ils vont rattraper le retard. Et là, les mecs, s'ils sont obligés de s'employer dans chaque virage physiquement pour aller chercher le freinage à un moment donné, ça tient pas, c'est pas possible.
Pascal Duprat, tu voulais réagir au propos de
Christophe. Il me semble que le niveau d'ensemble des motos cette année est plus homogène que l'année dernière où Ducati menait le bal avec sa armada de motos. Malgré tout, Fabio, il a fini à 17 points de Bagnaia l'année dernière. Donc ça s'est pas joué à grand chose. Et puis, moi je pense qu'il va y avoir une dilution des résultats. Il y a ces deux courses dans le week-end qui vont compter parce qu'il va y avoir des chutes. Je le souhaite pas, mais il va y avoir des chutes, il va y avoir des bagarre. Et puis il y a Ducati, il y a Aprilia, puis au KTM de Jacques Miller hier au sprint, c'est plus que bien débrouillé. Et je pense qu'il va tirer les marrons du feu parce que c'est un superbe pilote et c'est un super combattant. Et puis ces ingénieurs ont promis que dans quelques temps, les améliorations portées à la moto vont amener vont révéler ce secret qu'il est aussi compétitif en ligne droite que ne le sont les Ducati.
Ouais, enfin, Mercedes aussi avait fait ses promesses l'année dernière, il y a deux ans. Et on voit comment ça se passe parce que là.
Non, mais lui il le dit. Lui il dit pour l'instant, tout ce qu'ils ont améliorer, ils peuvent pas le présenter parce qu'ils ont peut-être pas suffisamment de recul ou ils ont pas tout pu installer. Lise ce qu'il disait hier encore, c'était très intéressant.
Mais moi, je comprends, Pascal et Renaud, que vous ne vouliez pas insulter l'avenir. Je le disais pour toi, Pascal, tout à l'heure. Franchement, je comprends avant le début d'une saison et puis on a envie de croire que Fabio Quartararo va jouer le match. D'ailleurs, l'année dernière, on s'est dit ça va être compliqué et au final, il a terminé deuxième. Alors, une première partie de saison exceptionnelle et puis après, ça a commencé à décliner et à être compliqué. Très bien. Mais Christophe, il disait, cette saison, ça va être un ennui en Formule 1, un ennui mortel, parce que les Red Bull.
Je le disais avant le premier Grand Prix. Alors, Renault disait le contraire, et regardez ce qui se passe au Grand Prix.
Il y a un moment, il y a la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui,
on peut. Mieux pour la gagne, quoi.
Évidemment qu'aujourd'hui, on peut pas dire c'est cousu de fil blanc, mais on a l'impression que.
C'est compliqué.
Que ça l'est quasiment, non?
Bon, non, on a malgré tout envie d'y croire. Parce qu'il nous donne envie d'y croire, en fait, Quartararo.
Après, j'ai envie d'y croire aussi, hein, parce que si au bout de 5 tours sur le Grand Prix, il est 8e qu'il n'est pas dans le coup, moi je zappe, hein, terminé.
Tu vas regarder Gambé Velgem à la place.
Non, on va peut-être remettre la moto.
On parle d'un mec qui est champion du monde, vice-champion du monde.
Bien sûr.
On parle d'un gars qui est champion du monde, vice-champion du monde. Et là, vous écoutez. Vous parlez d'un mec qui est 15e, ouais. Quoi.
Comme Lewis Hamilton, combien? 7 fois champion du monde. Eh ben, aujourd'hui, il est plus invité face au Red Bull. Mais c'est comparable.
Ils sont pas au même stade de leur carrière. Tu peux pas comparer l'éléphant avec l'hippopotame.
D'ailleurs, c'est qui le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame? Est-ce qu'on a tranché cette question, Renaud?
Bien sûr.
Moi, je pense que c'est l'hippopotame, non?
L'éléphant va beaucoup plus vite. Le rhinocéros. Avec sa masse, il a une énergie cinétique.
Et l'hippopotame, ce serait pas l'animal le plus dangereux au monde? L'hippopotame?
Il faut demander à Pierre Amiche, le spécialiste des animaux.
Je crois.
Tu sais que l'éléphant court plus vite qu'Usain Bolt, quand même.
Ah ouais?
65 km/h.
Alors, pourquoi ils ont jamais fait le 100 mètres au JO?
100 mètres d'éléphant? Non, mais c'est n'importe quoi.
Les éléphants sont pas invités, c'est ça? Ma conversation ne vous intéresse pas?
Non, je sais pas, t'es en train de
meubler,
Paul. T'as invité Beaugrain Dubourg après, non?
Non, vous allez voir. Parce que dans quelques instants, je garde un petit peu. Ok, vous voulez plus faire ce débat?
Tu peux nous faire un débat sur les animaux, alors, le débat caché.
Possible.
Qu'est-ce qu'il va nous faire?